Un saut dans le temps, une façon de découvrir des choses qui, à notre oreille, à notre vision, sont inconnues. En particulier, essayer de se replacer dans un endroit que j'appellerais magique, qui a dû l'être en tout cas, qu'il est encore aujourd'hui lorsqu'on le survole et qu'on arrive dans cette capitale, Mexico. Mexico, l'aéroport se trouve pratiquement dans ce qu'était la lagune à l'époque précolombienne, juste avant l'arrivée de Cortés. Et vous découvrez 80 km de cuvette immense, avec, si vous arrivez de jour, à votre gauche en arrivant d'Europe, les deux fameux volcans, l'Iztaccíhuatl et le Popocatépetl, et vous allez vous poser sur les maisons carrément. 20 millions d'habitants qui remplissent cette cuvette en font aujourd'hui la plus grande ville du monde, mais j'aimerais que vous nettoyiez tout cela et que vous enleviez toutes ces constructions et que vous puissiez maintenant imaginer l'horizon presque transparent, pur, comme l'air du Mexique sait l'être. Vous avez simplement une lagune infinie qui remplit pratiquement toute cette cuvette. Elle est séparée par des digues. Vous les avez aperçues en arrivant entre les deux volcans, à pied, en suivant Cortés. Et vous remarquez immédiatement qu'au centre, il y a quelque chose qui scintille, comme une blancheur avec des taches vertes. L'impression que vous redécouvrez une ville comme Venise, perdue sur cette lagune, avec les digues que je rappelle qui vous ramèneraient sur les rives, des milliers de canaux, des canoës qui passent d'un endroit à l'autre avec des marchandises et partout de l'agriculture. Mais une agriculture très spéciale basée sur les chinampas, c'est-à-dire ces espèces de jardins flottants qu'on va encore visiter dans le sud de la ville, du côté de Xochimilco. Tiens, voilà que je commence déjà à parler Nahuatl. Aujourd'hui, nous serons aztèques plus que jamais entre 1325 et le moment de la conquête, au moment où l'on installe dans cette ville qui a été merveilleuse une structure nouvelle, une structure coloniale, celle du premier vice-roi Mendoza. Si nous parlions du codex qu'il a demandé un jour aux Aztèques, si nous rencontrions quelqu'un qui a su devenir un peu le Champollion de cette écriture étrange, j'aimerais aujourd'hui que vous mettiez dans vos yeux des couleurs, que vous preniez un pinceau et que vous commenciez à tremper ce pinceau dans l'encre rouge et dans l'encre noire, que vous soyez vous-même non seulement un poète, non seulement un scribe, mais véritablement l'artiste, tel qu'on le découvrait juste avant 1492. Joaquim Galarza, comment pourriez-vous décrire la ville de Mexico, Tenochtitlan, si vous étiez né aux alentours de 1325, au moment de la fondation de cet endroit? Quelle serait votre langue, votre façon de décrire cette ville, afin que nous soyons sûrs de ne rien comprendre?
C'est-à-dire, ma langue, ce serait le nahuatl, la langue des Aztèques, et j'arriverais, comme tout le groupe qui venait du nord, et à ce moment-là, je m'appellerai Tenochca. Je serai l'un des Tenochca dans la ville qu'on va fonder, qui n'existait pas, parce qu'en 1325, il y a juste des marécages. Les terres et les eaux ne sont pas contrôlées. C'est le seul endroit où on nous permet, nous autres émigrants du Nord, de rester et vivre. Et là, il y a juste de l'eau, de la terre très mouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça, des plantes aquatiques, des plantes de bord des lacs. Et c'est à cet endroit-là que la grande Tenochtitlan, White Tenochtitlan, va naître.
Quand vous parlez de Tenochtitlan, c'est bien de la capitale que les Aztèques vont petit à petit faire grossir entre 1325 et 1519. Il faut mettre un peu de chronologie dans l'air à l'arrivée de Cortés. Or, quand vous dites plantes aquatiques et que vous dites boue, obligatoirement, on a l'impression que, qu'en tant qu'étranger que vous êtes, puisque vous arrivez avec cette troupe qui ressemble un peu à des pèlerins, qui ressemble un peu à des guerriers qui se déplacent du nord, ceux qu'on appelle les chichimèques, les chiens sauvages, ceux qui viennent d'ailleurs, vous arrivez sur un endroit qui est quand même assez curieux. Je décrivais la lagune, mais elle est très peu profonde, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Souvent, elle ne fait qu'un mètre ou un mètre cinquante de profondeur, donc il y a un côté d'abord marécageux. Et le fait de s'établir comme ça, il y avait déjà du monde sur les rives, non?
Oui, il y avait des gens qui sont arrivés avant, ceux qu'on raconte dans les mythes. des groupes qui parlaient aussi le nahuatl, mais qui s'étaient établis depuis très longtemps et qui avaient développé la technique justement de ces îlots soi-disant flottants, mais c'est des véritables îlots qu'on construit. Et nous, nous allons apprendre justement des gens comme les Chalca, les Xochimilca, des techniques qu'ils possèdent déjà.
C'est-à-dire cette technique qui fait qu'en faisant une sorte de radeau de bois ou de baguette de bois, vous déposez dessus simplement cette boue que vous venez de prendre à quelques centimètres de profondeur et vous en faites un faux radeau qui commence à couler. Et dès que vous mettez quelque chose dessus, obligatoirement les racines vont tenir le tout au sol, c'est ça?
C'est ça, parce que tout est tenu par des branches fraîches des plantes qui sont coupées et qui commencent après à pousser elles-mêmes et à tenir tout ça dans un endroit végétal.
Quand on visite Xochimilco aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ces petits tumuli un peu partout, c'est-à-dire qu'on a simplement un réau en dessus des canaux. Nous sommes maintenant en bateau ou éventuellement dans ces petites barques que les Indiennes continuent à utiliser pour nous vendre des fleurs ou du maïs grillé. On voit très bien que ces choses-là sont complètement artificielles. Quelle était la surface, on pourrait dire, ou en tout cas l'importance des Chinampas après quelques années d'établissement, je dirais même après quelques siècles? La surface a beaucoup diminué aujourd'hui, mais tout le centre dont je parlais, c'est-à-dire la fondation même de Mexico-Tenochtitlan, qui est bien au milieu de la lagune, est partie, nous le verrons, d'un simple rocher, mais autour, en fait, tout est artificiel, un peu comme à Venise.
Oui, tout à fait. Au début, il n'y avait pas la terre ferme qu'on appelait, c'était beaucoup plus loin, c'était à Tenayuca, où il y avait déjà des grands établissements, des grands temples, des constructions très modernes pour l'époque, je veux dire, c'était des gens civilisés qui étaient déjà établis là.
Donc vous voulez dire qu'au 11e, au 10e, au 13e siècle, Tenayuca que vous citez, c'était bel et bien une pyramide parfaite en forme jumelle, c'est-à-dire deux temples l'un à côté de l'autre. Essayez de vous imaginer une construction, je crois qu'à Tenayuca il y en a 6 les unes sur les autres, une construction qui est faite, qui monte très verticalement vers le ciel avec deux escaliers, des sortes de rampes très lisses sur les côtés et au sommet deux temples. Ça c'était un peu la nouveauté des hauts plateaux mexicains.
C'est ça. Mais toutes les traditions religieuses et tout ça qui venait de très loin et d'un temps très reculé ont été adaptées à ces gens de construction. Et le premier temple qu'il y a eu, il apparaît dans la première page du Código de Mendoza. Enfin, les gens prenaient toujours leur dieu pour le transporter là où ils allaient. Et leur dieu, on imagine des statues, on imagine des choses en bois, en pierre, et pas du tout. C'était comme pour le christianisme après, qu'on a appris qu'il y avait par exemple un petit morceau d'une dent de Quetzalcoatl ou l'ongle qui avait coupé je ne sais pas quelle ancienne divinité quand elle était vivante, quand c'était un personnage vivant. Ça enveloppé dans des tissus et ça faisait comme ce qu'on appelait un bulto, un paquet comme le paquet mortuaire, mais c'était ça les reliques, c'était des reliques qu'on transportait. Alors quand on voit ces groupes qui émigrent, il y a toujours des femmes et des hommes, ceux qui transportaient les dieux, on les appelait les transporteurs des dieux, c'était des paquets comme ça, où il y avait une petite relique de la divinité, c'était ça la divinité.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Mexique, le lieu de départ des Mexicas ou des Tenochcas, comme vous les avez appelés tout à l'heure, c'est l'île d'Aztlan, cette île qui serait perdue dans le nord, dans des terres peut-être plus sèches, plus arides en tout cas. On parle d'un lac, en tout cas sur la fameuse Tierra de Peregrinación, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire l'endroit où on a commencé le pèlerinage. On part d'une île au milieu d'un lac, on voit le petit bateau qui sort de l'île et on voit immédiatement que la relique dont vous parlez est portée par des gens, et c'est la relique de Huitzilopochtli, le grand dieu tribal des Aztèques. Comment est-ce qu'on peut traduire Huitzilopochtli si l'on parle nahua comme vous?
Mais c'est-à-dire, c'est difficile à traduire en espagnol parce qu'il y a des sens qui ne peuvent pas être donnés. Et on a fait plusieurs traductions, il y a plusieurs hypothèses.
Moi j'en connais deux, c'est le guerrier ressuscité du sud et puis le colibri de gauche en tout cas.
Oui, de toute façon le mot colibri existe, la Huitzilin. Huitzilin c'est le mot base. Mais alors après, toutes les métaphores et toutes les images que cela contient, on ne les traduit pas. Et alors, Opochtli aussi, c'est gauche, mais ça veut dire des tas d'autres choses. Et faire une traduction directe comme ça, juste de la phonétique, n'est pas valable.
C'est trop restreint.
Oui.
Alors c'est intéressant parce que vous êtes spécialiste, Joaquim Galarza, il faut le dire, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les codex mexicains. Vous avez commencé votre vie, on l'entend à peine à votre accent, du côté de San Luis Potosí. Et comment est-ce qu'on peut, étant baigné dans un milieu, je dirais, non pas urbain, mais plutôt en campagne, à l'extérieur des grandes villes, comment est-ce qu'on peut être amené à aimer le Nahuatl et commencer à comprendre cette langue? Parce qu'il faut l'expliquer, c'est une langue extraordinaire, avec un côté agglutinant qu'on ne connaît pas du tout en français. En français, je fais toute une périphrase pour annoncer quelque chose, tandis que l'aztèque collait les termes ensemble.
Oui, c'est-à-dire on pourrait le comparer avec l'allemand. Mm-hmm. Et toujours les grands experts du 19e siècle ont été des Allemands, des Autrichiens. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient traduire particule par particule, sans faire des longues phrases. Et c'est comme ça que c'était le meilleur traducteur du Nahuatl.
Donc l'allemand est plus proche de l'idée de la composition agglutinante de l'aztèque. Or, vous-même, vous avez été baigné dans le milieu nahuatl, puisqu'il y a encore 3 millions de personnes, je crois, qui parlent cette langue aujourd'hui.
Oui, mais moi, j'ai des origines tout à fait différentes. Enfin, je suis né à San Luis Potosí, dans une région huastèque. C'est les Mayas les plus anciens. Et j'ai l'ascendance huastèque et basque, parce que ça a été colonisé par les Basques, et mon nom est un nom basque, comme beaucoup des noms dans la région. Les Basques n'ont pas été des conquistadors, ils sont arrivés après comme colons, et ils se sont mariés avec les femmes des lieux, et puis ils ont fondé ce que nous sommes maintenant.
Est-ce que vous revendiquez, en tant que Mexicain, Joaquim Galarza, votre métissage?
Absolument, oui.
Vous l'affirmez même?
Ah oui.
Et c'est pour cela qu'on devient ethnologue?
Et je suis même très fier. Ah non, je ne sais pas, je crois que c'était la curiosité. Puis les Mayas huastèques, ils sont considérés aussi rebelles que les Basques. Alors donc, être né des deux...
Vous avez trouvé quelque chose qui vous correspondait.
Tout à fait.
On repartira peut-être aux alentours des années 30, lorsque votre oreille s'est formée à ce que vous voyiez. On fera peut-être un tout petit rien d'aventure de la vie d'un futur ethnologue, afin de voir comment est-ce qu'on peut tout à coup perdre 20 ans, 25 ans, à regarder des codex, des livres qui se déplient comme des accordéons, qui font rêver avec des couleurs. Reprenez vos pinceaux, nous allons rentrer dans le Codex Mendoza. Quand on dit CNRS, centre de recherche, bien sûr, ce centre national de recherche scientifique, oui. Bien, on pense aussi à Joaquim Galarza. Si je l'ai dit à la française, c'est parce que vous nous parlez français et que vous vivez un peu sur les deux continents, c'est-à-dire à la fois à Paris en particulier et puis à la fois au Mexique, parce qu'il faut retourner à ses sources pour travailler dans le domaine qui vous occupe. Comment êtes-vous arrivé au CNRS? Quelle est votre trajectoire? Mais comme ça, en quelques mots, pour le plaisir de voir comment on arrive à se passionner, comme les Allemands du 19e, à ces manuscrits étranges qui nous sont parvenus depuis le 16e.
Mais c'est-à-dire que c'est un long chemin. Je voulais être archéologue. À l'époque où je suis né, il n'y avait que la radio. Et par la radio, par ces instruments très bizarres qui existaient dans les années 30, on a su qu'Alfonso Caso avait découvert la tombe de Montalbán.
La tombe numéro 7.
Oui, c'est ça.
C'était en 33, je crois.
Oui. Et alors, j'étais tout petit et je voulais être archéologue.
Ça a été le déclic. Là. Vous imaginez ce monceau d'or, de bijoux, mixtec.
Oui, mais ce n'était pas tellement l'or, etc. C'était tous ces mystères qu'il y avait avec. Et évidemment, il y avait des codex, mais à l'époque, je ne pensais pas à ça. C'est après, quand je suis parti, enfin, chez moi, on ne m'a pas laissé étudier la carrière d'archéologue, parce qu'on m'avait dit que c'était un hobby des milliardaires, chose qui est presque vraie encore à l'époque.
Ça reste encore un peu vrai aujourd'hui.
Mais
au Mexique.
Oui, même en France. Enfin.
En France.
Et on a fait tout un grand détour. J'ai fait tout un grand détour. Il a fallu d'abord travailler quelque chose. J'ai fait la chimie. Puis après, comme je m'ennuyais beaucoup à étudier la chimie, j'ai étudié en même temps un cours de littérature à l'école de philosophie. Enfin, c'était l'école, la faculté. C'était l'école de chimie et la faculté de philosophie qui étaient séparées à l'époque. C'était avant la cité universitaire.
Là, quand vous parlez de la cité universitaire, tout le monde imagine la bibliothèque et cette immense université qui a surgi là, dans cet endroit complètement désertique avec plus de 200 000 étudiants en quelques années.
C'est ça.
À partir de là, lorsqu'on ouvre son premier codex ou son premier fac-similé de codex, dites-moi d'abord ce que c'est qu'un codex. J'ai parlé d'accordéon tout à l'heure. Les premiers Espagnols, et Bernal Díaz del Castillo, je crois, avaient décrit cela un peu comme des draps de Castille que l'on pliait. Je trouvais l'image assez belle.
Oui, mais là, quand on parlait de ça, on ne parlait pas des livres pliés sous forme d'accordéon.
On parlait des liensos.
On parlait des liensos. Mm-hmm. Parce que c'est ça qu'on étudie, la première chose.
Les liensos, ce sont donc des sortes de grandes cartes qui étaient montées sur toile et qui permettaient d'avoir plutôt la topographie ou la géographie d'un endroit, comme le voyait le précolombien, c'est-à-dire avec l'image du petit chemin, avec des petits pas qui sont dessinés, chaque petit pied étant posé l'un derrière l'autre, et puis des symboles qui sont étranges. On les voit à gauche et à droite de cette petite route. Souvent, on a une forme en monticule, par exemple, qui nous dit bien que l'on est près d'une montagne ou d'un tepec, souvent. C'est un terme qu'on retrouve souvent au Mexique, Tehuantepec, par exemple. Et ensuite, par-dessus, vous avez souvent un dessin. Là, on rentre déjà dans le côté un peu glyphique et iconographique. Comment est-ce qu'on arrive à imaginer, soit à partir d'un lienzo, soit à partir d'un codex, parce qu'on y viendra, le côté idéogramme et la façon de fonctionner de l'écriture aztèque?
Mais c'est-à-dire, pour moi, c'était une découverte assez tardive, je veux dire, dans ma carrière, parce que je suis arrivé après la bibliothéconomie au Musée de l'Homme, où on faisait à l'époque, dans les années 50, tout l'enseignement d'anthropologie en France. Et j'ai eu les plus grands professeurs, et entre autres...
Faites-nous rêver, là.
André Leroy-Gourhan, qui était mon maître, enfin que je considère...
Qui s'est occupé surtout de la préhistoire. Maître.
Oui, oui, mais dont le problème essentiel était un problème des méthodes scientifiques dans ce qu'on appelle des sciences, que pour moi ce sont des disciplines humaines. Et ça, c'était sa préoccupation de base. Et c'est ça que je comprenais. À l'époque, il y avait Lévi-Strauss et Leroy-Gourhan. Et j'ai choisi Leroy-Gourhan, c'était le seul que je comprenais.
Sur le plan de la méthode.
Oui, et sur le plan de langage, etc. Et je n'avais pas de préparation philosophique. J'avais une préparation littéraire et scientifique, mais avec la chimie, les mathématiques, etc.
Qu'est-ce que vous avez en fait ouvert comme champ d'études dans ces années-là pour arriver vraiment au codex? On n'a toujours pas dit ce qu'était un codex, d'ailleurs.
Non. Mais en réalité, le mot codex, c'est le mot latin pour manuscrit, pour livre manuscrit à l'européenne. Et c'est un terme qu'on a appliqué au 19e siècle à tous ces livres, enfin, parce qu'on a comparé l'écrit de la Mésoamérique, enfin du Mexique et de l'Amérique centrale, avec les livres européens. Et c'est pour ça qu'on les a baptisés codex, parce que c'est ce qui s'approchait le plus. Quand on les pliait, ça donnait l'apparence d'un livre, mais qui n'a rien à voir.
Non, l'idée du livre est tout à fait différente.
Parce qu'un livre européen, on l'ouvre deux pages par deux pages.
Alors décrivez-le-moi physiquement et mettez-moi déjà quelques idées, quelques couleurs et quelques fonctions de peintre sur cette surface. D'abord la matière.
Mais la matière essentielle pour ce qu'on appelle codex, c'est surtout la peau d'animal, c'est surtout le cerf.
Les peaux de cerf, oui.
Et puis ce qu'on appelle la mate maintenant.
C'est la peau, le papier, le figuier sauvage.
Le figuier dont l'écorce est transformée en tapant.
En tapant.
Et en faisant sortir les fibres en tapant sur des sortes de moules en bois. Et c'est un papier qu'on fabrique encore maintenant, qu'on continue de fabriquer, qu'on n'a pas arrêté de fabriquer.
C'est-à-dire qu'on prend l'écorce de ce figuier sauvage et en redécouvrant la fibre avec une sorte de marteau de pierre, en frottant tout cela, on obtient effectivement un véritable papier.
On obtient des feuilles, oui. Mm-hmm. Et alors ces feuilles, on les fait unies, mais pas comme dans un livre, deux par deux ou dans des cahiers, mais on fait des longues bandes. aussi longue que qu'on a besoin pour écrire ce qu'on doit écrire. Et après, on les plie. Mais on les plie de différentes façons. Alors, c'est ça, les noms différents. On appelait des rouleaux, parce qu'on les roulait. On faisait on les mettait après dans des protections en bambou, un bambou mexicain, à Acatl. Et on les couvrait comme ça.
Donc, en fait, ça ressemblait un peu à un rouleau de Torah.
C'est ça.
Comme on l'aurait dans la religion. Mais ça, c'est une solution. La deuxième, ce serait le lienzo dont on parlait tout à l'heure, une sorte de pliage comme pour un drap, c'est-à-dire quelque chose de très grand qui serait beaucoup plus vaste comme surface.
Oui, mais là, la matière est différente. Là, pour le lienzo, c'est des tissus.
C'est du tissu.
Des tissus en coton, mm-hmm. Avec un tissage très simple pour qu'on puisse dessiner et écrire dessus. Et le mot que les Espagnols ont donné, lienzo, c'est par rapport au linceul.
Oui.
Parce que c'est la dimension d'un homme. Et on faisait des tissus de la dimension d'un homme pour le couvrir après la mort. Et c'était ça qui était utilisé aussi pour écrire. C'est-à-dire aussi bien le paquet mortuaire qu'on faisait et que les codex avaient la même dimension.
Comme le bulto de tout à l'heure que vous évoquiez pour porter les reliques. En l'occurrence, quand on sent ces supports et qu'on connaît un peu l'art des Amériques, on s'imagine aussi quelque chose qui a disparu en partie, ce sont naturellement les murs. J'entends le côté travail à fresque. Quand on visite un site, c'est la chose la plus difficile à concevoir, comme on l'aurait en Grèce, en Égypte. L'Égypte est assez représentative du parallèle avec des murs peints avec des hiéroglyphes. Eh bien, on avait la même chose sur tous les grands sites du Mexique. Il y avait quand même tout un côté pictographique qui se retrouvait sur les façades des temples et des bâtiments importants. On en trouve encore d'ailleurs.
Oui, mais cette pictographie voulait dire, enfin en nahuatl, on l'appelle tlacuiloa, écrire en peignant ou peindre en écrivant, parce qu'on ne pouvait pas séparer les deux
choses.
On ne pouvait pas peindre sans écrire, on ne pouvait pas écrire sans peindre.
Joaquim Galarza, est-ce que vous pouvez vous transformer en quelques secondes en ce fameux tlacuilo et nous donner, ou en tout cas imaginer, la façon dont on choisissait, dont on formait, un peu comme votre cheminement à vous, jusqu'à ce qu'on soit véritablement celui qui sait tenir l'encre rouge et l'encre noire. Quel était le mode de transmission, la pensée? Parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, comme ça a été nouveau pour l'espagnol qui n'a pas compris grand-chose d'ailleurs.
Oui, mais on choisissait d'abord les gens, tout petits, enfin des jeunes enfants, qui était doué pour le dessin. Parce que pour être tlacuilo, il fallait être peintre. Il fallait avoir la convention picturale.
Être un véritable artiste.
L'époque. Ah oui. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient écrire ou qui pouvaient écrire. Mais des gens qui savaient lire, il y en avait beaucoup plus qu'on a dit jusqu'à présent.
Vous pensez que les gens savaient lire? J'entends au sens noble du terme, en tout cas.
Ah oui, il y avait certains signes qui n'étaient pas donnés à tout le monde. Mais tous les fresques, tout ce qui était dans les temples que les gens devaient visiter, ils devaient savoir les lire, puisque c'était les prières qu'ils devaient faire à partir de Teotihuacan. À Teotihuacan, dans les colonnes, sur les quatre côtés, dans ces colonnes carrées, à base carrée, il y a le même texte pictographique sur les quatre côtés de la colonne. Et on se demande pourquoi cette répétition. Et il y a 10 colonnes, et 10 colonnes disent la même chose sur les quatre côtés. Pourquoi? Parce que c'était plein de monde. Et tous ces gens-là devaient chanter ensemble, ou devaient réciter des prières ensemble, ils devaient avoir le même texte.
Vous évoquez un peu l'idée aussi du moulin à prière, c'est-à-dire que ce qu'on ressent souvent chez l'Indien d'aujourd'hui, et vous êtes encore mieux placé que moi, je connais mieux la zone du Sud, vous connaissez mieux le langage du Nord, celui des Nahuatl, quand on entend un indigène psalmodier dans son langage et à sa façon, même quelque chose qui paraît tout juste être catholique, mais qu'il est rarement, on a cette impression aussi assez typiquement précolombienne, et d'ailleurs leur philosophie, le temps tout est conçu comme cela, de répétition constante, comme si les choses répétées prenaient une fonction beaucoup plus logique et que l'idée d'évolution ou de formulation sur la distance n'existait pas. On a cette idée de la répétition de l'énergie qui revient toujours à son heure de départ.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait des comparaisons très étroites entre les prières chrétiennes et les prières préhispaniques. Mais quand on prie le rosaire, par exemple, ce n'est qu'une répétition. Et une répétition constante d'un nombre très, très strict, très court de phrases, et pour la Vierge et pour le Christ, mais qui reviennent tout le temps.
Est-ce que vous pensez que Saint-Dominique avait rencontré un aztèque aux alentours des...
non, pas du tout.
Aux alentours des années 1200.
Mais je crois que ces bases religieuses existent dans toutes les civilisations. C'est-à-dire ces prières répétitives, on les rencontre aussi chez les musulmans et chez d'autres populations que je ne connais pas, mais... Quand on entend de la musique religieuse avec des mots, c'est toujours des répétitifs, des choses qui reviennent.
À part la fresque que nous étions tout à l'heure à Teotihuacan, au fond, vous avez la pyramide du soleil, celle de la lune. Vous nous avez fait entrer dans le temple de Quetzalcoatl avec ses colonnes gravées parfaites, qui étaient à l'époque naturellement en couleur. Et la couleur a une importance démesurée dans le support linguistique écrit.
Oui, les couleurs sont très importantes parce que, contrairement à l'Égypte, ici, les couleurs étaient lues. Il n'y a pas seulement le symbolisme, le contenu thématique, les origines de chaque couleur, mais il y avait le nom de la couleur qui fonctionnait comme un autre élément du système.
Vous pouvez me donner un exemple? Si par exemple j'ouvre et j'ai envie de l'ouvrir, le codex Mendoza, et que je vois sur la première page, on va s'arrêter au bleu, simplement du bleu.
Oui, c'est ça la dominante, c'est la couleur dominante. Alors vous savez que chaque fois, il faut que vous prononciez Xiwitl, à chaque surface. C'est pas n'importe quelle couleur bleue, c'est le bleu
qui devient
la turquoise.
C'est donc la couleur turquoise donne déjà une prononciation.
Absolument.
Donc avant de voir le dessin, le bleu me donne déjà le début du mot que pour l'aztèque, mais de la phrase pour nous.
Oui, c'est ça. Et vous voyez dans toutes ces surfaces qui sont délimitées par des traits noirs, c'est pour ça qu'on parlait toujours du noir, parce que le noir du Tlaquilo donnait les formes. Tous les dessins, toutes les formes étaient entourées d'un trait noir qui les définissait.
Comme une enveloppe.
Oui. Alors il y a Buffet maintenant qui peint comme ça.
Oui, ben, je crois toujours que tout le monde a ça dans l'œil.
Toujours avec des traits noirs, très, très, très foncés qui entourent complètement toutes les formes. Elles sont définies comme ça. Chez les glyphes, c'était ça.
Un voyage un peu dans l'inconnu, un voyage que nous pourrions faire comme si nous étions le roi d'Espagne, je sais pas, Charles Quint par exemple, qui était censé recevoir ce codex Mendoza envoyé par son vice-roi, qui était quand même le deuxième personnage de l'Empire, ce vice-roi qui régnait là-bas du côté de Mexico. Il y en avait un autre d'ailleurs, au Pérou. Et tout cela partait gentiment des Amériques, on descend doucement vers Veracruz depuis la capitale. Ce livre, appelons-le codex précieux, devait être envoyé comme un message à la cour afin de connaître l'histoire. L'histoire d'un pays qu'on venait de conquérir et qui, en définitive, était mal connu. Une histoire qui commence en 1325, il y a eu des souverains, il y a eu de grands personnages à Mexico qui ont dirigé. Et finalement, la première page que nous allons ouvrir, ce sera la seule que nous visiterons. Il faudra beaucoup d'imagination pour deviner les dessins. Après tout, on pourrait les obtenir en ouvrant une publication sur le Codex Mendoza. Mais cet ouvrage n'est jamais arrivé à la cour d'Espagne. Il a été intercepté en route par un corsaire. Dans ces années, peut-être 1540, 1545, on ne sait pas exactement, mais en tout cas entre 1535 et 1550, ce corsaire a attrapé ce galion espagnol et a repris ce livre, qui ensuite va voyager de manière très curieuse. Il sera en France, on voit sur la première page qu'il a appartenu au cosmographe du roi, et finalement il va être racheté par un Anglais déjà très très intelligent dans sa façon d'avoir compris la valeur de cet ouvrage, et puis il terminera là-bas, du côté d'Oxford. Allez à Oxford, vous aurez beaucoup de peine à le voir, mais achetez peut-être un fac-similé. Je vous assure que c'est un livre d'aventure extraordinaire. L'histoire, des tribus qui sont payées aux Aztèques, et puis finalement, des légendes et des choses religieuses qu'on retrouve uniquement chez eux. Thank you. un livre, c'est toujours un voyage. Ouvrir un livre qu'on ne comprend pas, c'est une aventure. Vouloir le comprendre, c'est une science. Et Joaquim Galarza essaye comme cela, au cours des années, comme on le faisait déjà au 19e, comme on a dû le faire au 16e siècle, parce que quand on envoie de la part d'un vice-roi à quelqu'un comme Charles Quint, un ouvrage qui est complètement peint par le Toaquilo de tout à l'heure, c'est-à-dire le peintre aztèque, on a envie d'annoter, juste comme cela, avec une belle plume, à côté d'un glyphe, à côté d'un temple. Bah, tiens, ce temple, on va l'appeler Tenayuca, comme tout à l'heure. Et puis on saura que Tenayuca a été prise par les Aztèques, parce que le dessin que j'ai sous les yeux, c'est la première page de ce Codex Mendoza, nous décrit par exemple, on est perdu d'abord dans le fourmillement de la page, mais là, juste en voyant le mot Tenayucan et Pueblo, le village de Tenayuca, je vois un petit temple comme la pyramide qu'on imaginait tout à l'heure, vous savez, avec des degrés qui montent vers le ciel, et puis un petit escalier à l'avant, un temple qui est pris de profil, mais ce qui est curieux, c'est que le toit n'est pas tout à fait normal. Il est fait de paille jaune, parce que la couleur est importante, et il penche sur l'avant, c'est-à-dire tout le toit a été plus ou moins renversé, comme quand vous ouvrez une petite boîte de ces boîtes à musique et que vous remontez le couvercle, et vous remarquez qu'en même temps, sous la paille, il y a des petites vaguelettes comme ça, des choses assez curieuses en forme de volutes qui en sortent et qui nous font comprendre que ce temple a été tout simplement incendié. Ben voilà, c'est simplement la prise d'un temple par les troupes aztèques. Mais ça, c'est un tout petit morceau de la page que l'on vient d'observer pour la première fois. Et Joaquim Galarza nous a parlé de turquoise, parce que la première chose que l'on remarque, c'est que cette page est complètement bleue. Il y a une ambiance bleue. Il y a d'abord une sorte de carré, une sorte de marge, un cadre. Un cadre, je n'ai pas encore envie de le remplir, mais il est fait de petits carrés les uns à côté des autres. Il ne se ferme pas complètement d'ailleurs, et il est entièrement bleu. Et au centre de la page, il y a un nouveau carré. Un carré qui lui est formé, mais attention, il est ondulé sur les bords. C'est-à-dire chaque ligne noire, ces enveloppes de tout à l'heure, nous montrent bien que cette ligne étrange qui forme un carré parfait est vibratoire. Et au centre même de ce carré, essayez d'avoir un peu d'imagination, vous faites une grande croix, toujours bleue. Et obligatoirement, simplement en l'observant, vous dites « mais ça doit être de l'eau ». Ça doit être quelque chose qui vibre comme l'eau. Joaquim Galarza, est-ce que vous pouvez me décrire d'abord simplement ce grand cadre qui est autour, et puis en même temps ce deuxième petit cadre, plus petit, mais enfin qui remplit vraiment bien les deux tiers de la page, avec cette formule étrange où il y a déjà quatre autour, quatre au centre, la croix, des triangles, enfin une géométrie bien précise, non ?
Oui, en réalité, cette page-là, c'est comme tous les codex, c'est un tableau à lire avant de l'interpréter, c'est-à-dire comme un tableau que ferait un peintre de maintenant qui cherche à peindre et écrire en même temps, de ces peintres qui s'appellent eux-mêmes des lettristes, des formistes, des coloristes et qui veulent être pas interprétés. Ils disent avant d'être interprétés, je veux être lu. Alors ils ont des codes et on visite leurs expositions à Paris, surtout au Grand Palais, dans les grands salons, avec un code pour lire dans sa langue, la langue du peintre, ce qu'il a mis sous des formes ou des couleurs qui ont des valeurs phonétiques dans la langue de l'auteur.
Donc il faut décoder d'abord.
Il faut décoder, et c'est ça les codex. Et il y a une codification de l'image, toute l'image est codifiée, mais en nahuatl évidemment, et chaque surface, chaque couleur doit être lue. Et après, bien sûr, l'interprétation de toutes les métaphores et toutes les images qui sont là. Mais ici, il y a un encadrement. C'est un encadrement bleu, c'est un encadrement chronologique. C'est un conte des premiers 51 années de la vie de Tenochtitlan. C'est-à-dire la première année, c'est quand l'aigle est arrivé à se poser sur le nopal. C'est pour ça que l'aigle là, dans le codex, au centre de la page, c'est un grand aigle qui bouge les ailes, les pattes. Se pose sur un grand nopal, sur un grand cactus qui a des fruits fleurs, avec des couleurs vert, blanc et rouge. Là, c'est la première représentation tricolore du drapeau mexicain actuel, le vert, le blanc et le rouge. Et là, il se pose. Et après, dans les armoiries mexicaines, on va prendre cet ensemble du centre du codex pour faire les armoiries du Mexique. Mais là, on met un aigle, un serpent. Mm-hmm. Et ici, il n'y en a pas.
Si je reprends l'image que vous venez de décrire, vous avez placé immédiatement l'aigle. C'est vrai que j'ai mis du bleu et l'encadrement. Et l'encadrement, quand on le détaille, on voit qu'il y a chaque fois des petits symboles. Il y a deux maisons, trois lapins. Et on continue ainsi avec le silex, avec le roseau. Ça, il suffit de les lire, il suffit de connaître le code. Et mine de rien, vous venez d'évoquer ces 51 années qui tournent autour comme ceci. Chaque fois, en forme de trezaine, il y a tout un système de calculation extrêmement complexe, mais il est bon de savoir que le Mexicain avait compris que le temps revenait sur lui-même et qu'après 52 ans, on recommençait en fait ce qu'on appelle un siècle précolombien. Or, un siècle précolombien fait de 13 fois 4, ça représente le temps, la chronologie, et là, vous me dites qu'il y a 51 années qui suivent en fait la fondation de Mexico-Tenochtitlan, c'est-à-dire après 1325. Donc, on encadre l'image complète par ce temps et cet espace dont on va parler à l'intérieur de la page.
Oui, c'est pour ça qu'on le met comme un cadre pour se référer à tous les faits qui sont racontés au milieu de la page.
Alors, au milieu de la page, vous avez évoqué l'aigle. C'est un aigle qui est brun foncé avec du noir. C'est vraiment le symbole du Mexique que vous évoquiez sur le drapeau. Et cet aigle, il a l'air extrêmement agressif. C'est un grand aigle, d'abord. Il bouge, ses ailes sont agitées. Et quand vous disiez qu'il était posé sur un figuier de Barbarie, ce qui est curieux, c'est qu'on voit très bien la fleur de ces figues de Barbarie, mais on voit aussi quelque chose qui ressemble à un petit tonneau en dessous. C'est-à-dire une chose assez étrange en forme presque ovaloïde comme ceci, avec un motif au centre très simple qui ondule. Et on sait aussi que par symbolisme que c'est pratiquement le même dessin qu'on retrouve quand on parle de la pierre. Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est un rocher?
Pierre, oui, c'est une grande pierre. Mm-hmm. Donc pour transcrire, grande pierre, white tetl. Et ce white tetl, c'est la base de ces grands figuiers qui poussent sur cette pierre et où il y a les fruits-fleurs. Et ces fruits-fleurs, c'est ce qu'on appelle nochtli. Nochtli, c'est ce qu'on appelle tuna maintenant au Mexique, en espagnol. Et ce sont les fruits du figuier de Barbarie, les figues de Barbarie, et qui font la transcription du nom de la ville qui est en train de se fonder.
Oui, involontairement, j'essayais de traduire derrière vous mentalement. Vous avez dit Teotl, donc je pourrais déjà dire Théo. Et puis, vous avez dit Nochi, donc obligatoirement, si je le traduis bien, c'est la figue de Barbarie. Et puis, nous manque le Tlan. Tenochtitlan, non?
Titlan. Tlan, c'est l'abondance. On a dessiné d'une façon répétée le glyphe du fruit.
De la figue, oui.
De la figue. Et ça donne tlan, tlantli, l'abondance. Mais le ti, c'est parce qu'il y a de la distance, il y a une séparation. Ce n'est pas une abondance où tous les fruits sont collés les uns aux autres.
Ils sont séparés les uns des autres.
Il y a cette séparation qui se lit titlan.
Là, vous êtes en train de nous faire plonger carrément dans la grammaire, parce que ce que vous venez de prononcer par des mots nahuatl, ces mots aztèques, pour ceux qui n'ont jamais parlé le nahuatl, on comprend bien qu'involontairement, vous venez uniquement avec un aigle posé sur un figuier de Barbarie qui lui-même est en fleurs et qui a de nombreuses figues, lui-même posé sur un rocher en forme symbolique, vous venez de me dire que j'ai le lieu même de fondation de Mexico-Tenochtitlan, qui se trouve au milieu de l'eau, puisque tout à l'heure j'évoquais ces lignes étranges qui faisaient penser à des canaux d'eau avec le garret de l'eau et puis le centre. Alors ces triangles qui sont autour et qui nous représentent en fait le côté terrestre, c'est-à-dire l'occupation même de l'espace, on remarque que, même si on n'a pas le dessin sous les yeux, on remarque que chacun de ces triangles est plein de dessins. Il y a un fourmillement, il y a une sorte de grouillement dans ce manuscrit qui est assez extraordinaire, et je vois là, en les comptant rapidement, une dizaine de personnages. Ce sont des personnages qui portent une tunique blanche. Ils ont des coiffes qui peuvent être un peu différentes. En tout cas, un a une coiffe très différente de ses voisins. Donc, il y en a 9 tout à fait semblables. Et ils sont assis à l'indienne. C'est-à-dire cette façon un peu étrange qu'avaient les grands personnages, les nobles, de se mettre avec les genoux très serrés contre le corps. Et ils sont assis, en principe, sur des petites bases qui ressemblent soit à des nattes, soit à des choses vertes, parce que j'en vois 9 qui sont assis sur du vert et un seul qui est assis sur du jaune. Est-ce qu'on arrive systématiquement, en regardant ces personnages. Ah tiens, il y a encore quelque chose juste à côté. On le remarque assez facilement. Derrière chaque épaule de personnage, il y a un tout petit trait, comme si on voulait créer une liaison organique, et puis un tout petit hiéroglyphe. Alors, je ne sais pas, il y en a un qui, par exemple, a une sorte de peau de jaguar. Tiens, le premier d'en haut, on a l'impression de voir le dessin de la peau de jaguar. Et celui de droite, on aurait plutôt l'impression de revoir l'idée de l'aigle. Est-ce que ça donnera obligatoirement le nom du personnage?
Oui, c'est ce qu'on a reconnu dès le début comme étant des signes d'écriture. C'est la transcription des noms personnels de chaque individu important. Parce qu'il n'y a que les gens importants qui sont dans les codex. Et les deux personnages qui sont en face, en haut.
Donc on imagine notre croix.
Oui, c'est un triangle, c'est une croix de Saint-André.
Oui, une vraie croix de Saint-André. Et au nord de la croix de Saint-André, dans la partie du triangle d'en haut, il y a deux personnages assis autour d'une maison. Ils regardent tous les deux une maison. Oui.
Et alors, le signe qu'ils ont, c'est le drapeau. C'est un petit drapeau à un papier indigène.
Ce que je disais qu'ils avaient derrière l'épaule.
C'est ça. Mm-hmm. Et qui semble flotter, si on mettait ça dans le...
Comme une bannière.
Oui, tout à fait. Et c'est le drapeau Pantli qui transcrit la syllabe pan. Et donc on sait que tous les deux ont un nom qui finit par pan.
Simplement en voyant le petit drapeau, vous allez finir leur nom par pan, oui.
Mais après, il y a des lois, évidemment, des lois plastiques. Tout ce qui est à l'intérieur de ce drapeau se lit avant le drapeau lui-même. Vous avez parlé de la peau d'Oslo.
Jaguar, oui, d'Oslo.
C'est
oui.
l'Oslo. Alors ce personnage s'appelle Ocelopan. Et comme c'est un personnage important, il y a la particule de respect, tsin. Alors, le personnage s'appelle Ocelopan Tsin.
Ah, Tsin, d'accord.
Et le Tsin ne s'écrit pas parce qu'on n'a pas besoin. C'est juste par le rapport graphique entre le nom et le personnage important où on prononce la syllabe de respect.
Là, vous êtes en train de me dire, Joaquim Galarza, qu'en voyant simplement un homme assis avec une coiffure particulière, avec un petit drapeau et une bannière dans le dos, je peux donner son nom, comme vous vous appelez Joaquim Galarza. On devrait pouvoir traduire par un motif qui pour nous a l'air simplement d'un personnage dessiné, peint. Il a ce manteau blanc, il a cette coiffe noire, il est assis sur du verre, il y a ce petit drapeau derrière lui. Ceci suffit pour donner le nom d'un grand personnage. Alors l'autre, je parlais de l'aigle, donc il a un rapport avec l'aigle.
Bien sûr, l'autre en face... Il y a aussi la syllabe pan de Pantli, mais ce qui vient avant, c'est aigle ou plume d'aigle. Et comme en nahuatl, on dit aigle plume de, enfin dans un mot très court, mais ça commence par Quautli, Quau. Alors ce monsieur s'appelle Quaupantzin.
Alors vous avez Quaupantzin d'un côté, vous avez Ocelopantzin de l'autre, je vais y arriver. Et ces deux personnages me font immédiatement penser, quand on pense à Aztec, à ces deux ordres de chevalerie extraordinaires, c'est-à-dire les chevaliers aigles, les chevaliers tigres, qui eux étaient un peu tout le moteur guerrier, et toute la base de ce que l'Aztec va faire. C'est-à-dire à partir de 1325, il va petit à petit grignoter toute une partie de ce Mexique à coups de guerres qui souvent étaient fleuries. Ça c'est un terme aztèque, c'était des guerres qui étaient vraiment particulièrement lancé comme une invitation, souvent à la fin du règne aztèque. Donc on livrait bataille tout simplement au nom de ces grands chevaliers, avec ces grands chevaliers, et puis le but c'était quand même de revenir au centre, c'est-à-dire de revenir à Tenochtitlan avec, on le devinera, des prisonniers qui, sur la grande pyramide de Mexico-Tenochtitlan, seront ensuite sacrifiés. Ça, c'est un peu le moteur, en fait. Cette image que l'on a ici dans la partie du haut, à quel horizon est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a en même temps des orientations sur un codex?
Oui, cela dépend. Si le codex est géographique, il est orienté.
Oui.
Et l'Orient, c'est la partie la plus importante.
Là, nous sommes.
Et dans la partie supérieure, c'est l'Orient.
Oui, bien sûr.
Et le contraire se trouve en bas. Le nord à gauche et le sud à droite.
Tout à l'heure, je disais Huitzilopochtli, le colibri
du sud,
il est donc à droite ou à gauche?
À droite.
On regarde le codex du bon côté ou à l'envers? Dans les Orients, parce
oui,
que là, vous venez
là,
de me donner...
Là, la partie supérieure est orientée, pas toute la page, mais la partie où il y a l'encadrement d'eau que vous avez décrit, où il y a les canons, là, c'est au moment où ils ont déjà dominé les eaux et la terre.
Donc, ils ont déjà su découper.
Ils ont déjà fait 4 quartiers, alors ils ont déjà divisé une terre ferme qu'ils avaient construit comme ça, centimètre par centimètre, sur le lac. Et là, et c'est un rapport avec les années qui sont tout autour. On peut trouver dans quelle année ils ont établi ces premiers monuments. Par exemple, ces deux personnages dont vous avez parlé, Ocelopantzin et Quaupantzin, se trouvent en face d'une grande maison.
Oui, c'est une maison avec un toit vert, avec une entrée majestueuse.
C'est une grande maison faite avec les éléments qu'ils avaient. C'est-à-dire le roseau et l'autre plante qui se trouve là, le tolin.
Thank you.
Reprenez votre dessin. Je reprends moi-même le carré bleu. Vous venez de vous installer dans cette lagune. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien en 1325 et vous avez égrené comme un chapelet ces 51 années qui forment ce cadre au nom de chacune de ces années puisqu'elles revenaient systématiquement en groupe comme ceci. Et en 4 groupes de 13, on arrivera à 52 ans. On a presque fermé le siècle. Il manque une année. Mais ce siècle-là nous prouve que on a beaucoup travaillé à Mexico, Tenochtitlan. Nous avons emballé notre divinité, ou en tout cas sa relique, avant de nous établir sur ce rocher qui nous a été attribué au centre du lac de manière légendaire. Et nous avons eu cette apparition fantastique d'un aigle qui se nourrissait d'une figue de Barbarie. Et la figue de Barbarie, en même temps pour les Aztèques, c'est ce que j'évoquais pour les guerriers. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'a toujours fasciné quand on ouvre pour la première fois une figue de Barbarie, c'est qu'elle est verte, elle est précieuse à l'extérieur, puisque c'est la couleur de la préciosité pour les précolombiens. Et quand on la tranche en deux, elle est rouge. Et en fait, elle ressemble bizarrement à un cœur humain. Un peu comme si l'aigle, se nourrissant de figues de Barbarie, nous disait déjà qu'il était celui qui était capable de se nourrir de façon un peu curieuse et sanguinaire. Est-ce que c'est vraiment le symbole de l'aigle?
C'est-à-dire, c'est les métaphores qu'on a cherchées après. C'est-à-dire, après la conquête, c'est ce que les Indiens ont raconté aux prêtres chrétiens. Mais ici, dans la première page du Correo de Mendoza, tout cela ne se trouve pas.
Parce que l'aigle ne tient rien.
Non, l'aigle se pose seulement.
On a défini maintenant les triangles, on en a visité un, et nous avons vu ces deux grands personnages, je l'appellerai celui qui se nomme un peu jaguar, celui qui se nomme un peu aigle. Ils sont établis juste devant ce temple, c'est bien un temple au centre, qui a été construit pendant ces 50 ans. Et il y a à côté toutes sortes de petites plantes, des joncs, des roseaux, qui sont stylisés de façon assez sympathique. Ce sont des dessins qui, pour nous, paraissent toujours assez enfantins, et lorsqu'on les regarde en gros plan, on voit au contraire qu'ils sont de nouveau très 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 codifiés. C'est-à-dire on ne confond pas une plante avec une autre. Le roseau a par exemple un petit rien de racine à la fin de sa tige, comme s'il était encore dans l'eau ou au moment où vous le tirez fortement de la lagune.
Oui, toutes ces plantes-là, c'est ce qu'on a trouvé quand on arrive sur le plateau lacustre. Et la maison qui se trouve là, entre les deux personnages décrits par leur nom, c'est le premier templo mayor, c'est le premier temple. La première construction qu'on a faite, c'est pour protéger la chose la plus précieuse qu'on avait dans le pèlerinage ou dans la migration, c'était les reliques de Huitzilopochtli. Alors, on a construit une maison, mais pour qui? Pour le Dieu, c'est pas pour les gens.
Bien sûr.
C'est le premier temple avec les éléments qu'ils avaient, des joncs et des roseaux. Et c'est ça le premier templo mayor.
On a déjà l'impression d'ailleurs qu'il est un peu exaucé parce que sous la petite hutte normale, il y a déjà une petite plateforme, comme si on voulait juste à quelques centimètres le surélever. Et puis dans la tête de l'Indien, c'est vrai que petit à petit, ça va se transformer en une véritable pyramide. Et puis ensuite, une pyramide sur une pyramide sur une pyramide comme un oignon. Et finalement, les fouilles que l'on a fait dans les années 70 nous prouvent bien qu'on a retrouvé plusieurs templo mayor les uns sur les autres.
Oui. Celui-là, on ne l'a pas trouvé parce qu'il est resté dans la boue, qui est impossible de...
Il est encore dans l'eau.
Maintenant, oui. Mais donc, il existait.
Donc il reste au cœur même du dernier qu'on a pu sortir lors des fouilles.
Et alors tous ces éléments végétaux donnaient toute une description poétique du lieu. Et les deux personnages qui sont là, ils ont des noms qu'on leur a donnés tardivement. C'est-à-dire que c'est deux grands guerriers qui ont été nommés les gardiens du temple. Alors c'est pour ça qu'on leur a donné le drapeau de l'aigle, le drapeau de l'oslo. C'était lui qui allait représenter tous ces deux groupes si importants après.
Ces deux groupes de guerriers qui sont en fait les gardiens parfaits de cette vitalité du temple.
Le temple de Huitzilopochtli.
Aujourd'hui, ça se trouve juste derrière la cathédrale en plein cœur de Mexico. Ce sont des fouilles très impressionnantes avec un musée avec plus de 6 ou 7 000 pièces archéologiques qui nous montrent bien qu'on devait toujours avaliser un endroit, c'est-à-dire laisser des coffres-forts entiers de matières, de plantes, d'animaux, de statues, de céramiques. On avait une façon très magique et très curieuse de vouloir sanctifier un endroit.
Oui, et toutes les offrandes qui étaient envoyées de tous les coins de ce monde à l'époque.
De l'univers de l'époque.
De l'univers de l'époque.
Sur la partie gauche, disons si je reprends le triangle suivant, il y a trois personnages à l'arrière qui ressemblent étrangement à ceux de tout à l'heure. Ils ont des noms différents. Et devant, il y a quelqu'un qui paraît très très différent des autres. Il est assis d'abord sur une natte de couleur jaune. La natte, chez les Mayas, le mot pop par exemple, signifiait le pouvoir, signifiait la force, signifiait quelqu'un qui a vraiment du pouvoir. Et il a une coiffure différente. Est-ce que vous pourriez me la décrire ? C'est-à-dire, il est assis de la même manière. Il a son visage assez foncé, on voit bien qu'il a une attitude très noble avec sa tunique blanche, mais il a une coiffe qui, elle, n'est pas faite comme une sorte de thé, comme pour tous les autres, mais est au contraire une coiffe comme une longue coiffure, comme quelque chose qui tombe sur les épaules.
Oui, c'est une sorte de cercle qui se forme autour de lui, et tous ces personnages qui sont autour, qui ont les cheveux attachés de telle façon qu'ils sortent, qui sont debout dans la tête, avec un nœud rouge. C'est des grands guerriers de Tlacatecatl. Ils sont tous le même rang de Tlacatecatl. Mais c'est lui qui est au milieu, c'est celui qui conduisait le groupe. C'était le prêtre. Il était en même temps guerrier, mais prêtre. Et c'est pour ça qu'il a une coiffure différente, parce que ce n'est pas la coiffure des guerriers, mais la coiffure du grand prêtre.
C'est une coiffure donc d'ordre religieux.
C'est ça.
Donc ce personnage, pour reprendre le motif, les neuf qui sont répartis deux en haut, deux à droite, deux en bas, trois à gauche, forment notre chiffre neuf que j'évoquais. Et c'est vrai que celui que vous évoquez, le grand prêtre, se trouve collé pratiquement près de l'aigle. Il est carrément au centre et tous regardent vers le centre. En fait, ça forme une sorte d'immense cercle. Et en dessous, à part le grand prêtre, je remarque que les deux personnages qui sont en bas sont tout près d'une sorte de grands boucliers. On reprend l'idée de la guerre, là ?
C'est tout à fait ça. C'est le début des grandes guerres.
Alors ça, c'est donc le début de la conquête. Ça nous prouve bien que de 1325 plus 51, on a déjà pu agrandir le tout. Et à droite, on voit quelque chose qui est un peu plus sinistre. C'est ce qu'on appelle le mur des crânes. Il y a un crâne qui a été fiché dans une baguette près des deux personnages. C'est le fameux Tsompantli qu'on retrouve d'ailleurs dans le Templo Mayor.
Oui, et ici, ce n'est pas le même. Mais c'est le premier qui a été fait. En bois, c'était juste trois morceaux de bois, et on a fait le premier sacrifice, sûrement dans la première guerre, et c'est ça qu'on a fixé comme le premier Tsompantli. Le lieu s'appelait Tsompanco.
Tsompanco, c'est bien cet endroit où le premier sacrifice humain a eu lieu chez les Aztèques. Donc j'ai fermé maintenant cette lagune, nous avons vu le centre, et juste dessous, pour les quelques secondes qui nous restent à feuilleter ce livre, et nous n'avons vu que la première page, il y a véritablement, je dirais presque deux armées qui sont formées de deux personnages et qui portent ces étranges gilets de coton matelassé, avec un qui tient une massue avec des petits rasoirs d'obsidienne bien effilés, l'autre tient une sorte de tomahawk de bois, et ils tiennent un bouclier qui ressemble beaucoup à l'autre. Il est plein de plumes, il y en a sept, ces fameuses sept plumes qui marquent le côté guerrier. Et juste en dessous, il y a des tout petits personnages qui ont l'air d'avoir été vaincus.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est les deux premières guerres que les Aztèques, que les Tenochcas, ont menées contre les deux populations les plus proches ou les plus puissantes, des Coloacan et de Tenayuca.
Décrivez-moi juste, là, comme si nous étions en 1330, 1340, 1350, cette petite communauté et ce temple de Coloacan et la pyramide de Tenoyuca qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on vient de voir brûler, là.
Oui, c'était des grandes constructions à degrés, comme vous avez décrit pour les temples, chose qui n'existait pas encore chez les Tenoch, car ils ont fait les deux premiers temples d'une façon très,
très
sommaire,
simple.
Très simple, avec le milieu.
On a vu la hutte de tout à l'heure.
Avait. Mais les autres populations, elles avaient des grands temples comme celui qui est devenu après le Templo Mayor pour les Tenochca. C'est pour ça avec les degrés et le toit qu'on voit en flammes. C'est ce qu'on faisait. Enfin, c'est une métaphore qui dit on a conquis le village de. C'est pour ça que c'est répété dans les deux exactement pareil. La conquête de Tenayuca, la conquête de Culhuacan, c'est qu'on faisait comme symbole. Comme maintenant on nise le drapeau de la population qui a vaincu, là on brûlait, mais pas le temple, on brûlait juste la partie en matière végétale qui se trouvait sur le toit. Et comme c'était l'édifice le plus élevé, comme ça tous les villages et tous les gens savaient qu'ils étaient vaincus, qu'il fallait se rendre.
Tenayuca vient de brûler uniquement le toit du grand temple. Tenochtitlan est toujours au centre du lac. L'aigle bat des ailes. Il est posé sur un opal, ce figuier de barbarie. Il est posé sur un rocher. Le rocher a tenu bon de 1325 à 1519. Et même si vous êtes espagnol, vous en verrez cette première page. à votre roi, à votre empereur, et un jour, Joaquim Galarza viendra pour vous raconter l'histoire, comme un véritable Tranquillo, comme un véritable Champollion qui aurait envie de décrire chaque couleur, chaque petit dessin d'un codex, un codex de son pays, le Mexique.